France Culture.
C'est un livre dont vous allez entendre parler, donc Le Seigneur des Porcheries chez Gallimard. Quel âge vous avez ?
26.
Il a 26 ans. Est-ce que ça vous dérange quand vous compare déjà William Faulkner,
oui,
John Steinbeck ?
Mais je ne suis pas d'accord avec ça, spécialement Steinbeck, pas du tout. Et Faulkner peut-être, mais la seule influence de moi, pour moi, c'est Céline, peut-être pour la fiction, mais après ça, c'est Charlie Chaplin, etc., etc.
Bonjour le Book Club, bonjour Adrien Bosque. Il y a quelques années, j'ai lu Le Seigneur des Porcheries. Un choc radical, lecture incomparable. À l'époque, j'ai cherché à découvrir qui était Tristan, mais je suis restée sur ma faim. Alors votre livre, Adrien, je l'ai lu dès sa parution et je ne l'ai pas lâché.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, Tristan Egolf, auteur prodige, découvert en France avec son livre Le Seigneur des Porcheries, se suicide. Il a 33 ans. Ce premier roman avait fait halluciner tout le monde, c'était bien vendu, avait été traduit dans de nombreux pays et avait radicalement changé l'existence du jeune homme, d'un coup. De cette existence, il reste des traces, mais les vestiges ne sont pas la vérité d'une histoire, écrit Adrien Bosque, qui consacre un roman à sa trajectoire de vie. Il y interroge tout en même temps la pulsion d'écrire et celle de s'inventer soi-même, les potentiels personnages que nous sommes les uns pour les autres et pour les romanciers qui voudraient raconter nos vies. Adrien Bosque est notre invité pour son roman paru chez Stock. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Nicole Vulser. Elle éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, le marché des dictionnaires. Que reste-t-il comme place pour ces lourds pavés à l'heure d'Internet? Et enfin, on jouera bien sûr à chercher de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Adrien Bosque.
Bonjour Marie-Chie.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir pour ce roman L'Invention de Tristan. Je le disais, il a paru aux éditions Stock et j'ai mentionné cet autre roman. Le Seigneur des Porcheries, c'est une œuvre fascinante qui a permis à Tristan Egolf d'accéder à la publication. On peut voir une mise en scène, réinterprétation si j'ai bien compris, à partir du 8 mai, c'est-à-dire après-demain, à la MC 93 de Bobigny. Pour 10 jours, c'est une mise en scène qui est signée Paul Balaguer et la Compagnie des Eaux Troubles. Je lis ce que dit Paul Balaguer de sa découverte. Il a 18 ans, je crois, quand il découvre le livre. Pour moi, ça a été un choc. Dès la lecture, il y a une rencontre presque physique avec ce roman, profonde, émotionnelle, intime, quand il le découvre donc. J'ai pas compris tout de suite pourquoi, mais j'adorais ce livre et j'y suis revenue, dit-il, parce qu'à ses yeux, c'est un projet cathédral qui permettait de clôturer un cycle de travail avec sa propre compagnie. On va débuter, comme chaque jour, le Book Club par un questionnaire lecture. L'idée, c'est de rencontrer nos invités par les lectures qu'ils ont eues, par les livres qu'ils ont trouvés sur leur parcours. Évidemment, l'émission d'aujourd'hui, elle demande de modifier un peu ce questionnaire lecture parce que ça semble être un tel choc. Je citais Balaguer, mais pour votre narrateur aussi, la découverte du titre de Egolf, qu'on a envie de s'arrêter là, de commencer par là. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre découverte du Seigneur des Porcheries? Pour votre narrateur, c'est chez un bouquiniste dans un rayon d'occasion. Est-ce que c'est pareil pour vous?
Je me sens frère lecteur de Balaguer dans la façon,
le metteur en scène, ouais.
Oui, dans la façon qu'il a de décrire le choc qui a été le sien, l'âge aussi, puisque j'avais 18 ans, je venais d'arriver à Paris, j'avais une culture littéraire assez classique, plutôt littérature française, plutôt du 19e, une sorte de voilà de culture de lycée, mais un peu complétée.
Complétée par quoi?
Bah, complété par mes frères,
okay.
Qui eux avaient
plus âgés,
et qui me passaient en contrebande ce qui avait de plus intéressant ou différent. Je pense à Marcel Chaube, par exemple. Voilà, des sortes de
contre-travées un peu.
Contre-travées, c'est très justement dit. Et c'est exactement comme ça que mon autre culture littéraire s'était construite, mais elle n'était pas du tout américaine.
Mm-hmm.
Pas du tout celle d'une contre-culture américaine. C'était une contre-culture française, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, du 19e, donc c'est un peu étrange.
Mais justement, c'est singulier.
Voilà, c'est singulier, et c'est comme ça qu'elle nous était transmise par ses frères, qui avaient un peu d'avance. Et lorsque je suis arrivé à Paris, je me suis installé à Belleville, comme mon narrateur, et de la même manière, et dans cette même librairie qui est décrite, parce que il me fallait repartir de ce point de départ, de ce choc, en sachant que le narrateur n'aurait pas le même regard, ni le même passé que le mien.
D'ailleurs, il n'a pas 18 ans en même temps.
Non, et ni la même nationalité, voilà. Il est américain, et tout ça pour des raisons qui sont propres à la vraisemblance de la narration et à plein de choses. Mais je me rappelle très bien, donc, dans ce bac de livres d'occasion qui se trouve près du métro Goncourt.
Belleville.
Voilà, ouais. Quartier Belleville, où se trouve cette librairie d'occasion, être tombé sur ce livre, l'avoir pris, avoir été étonné d'abord par la couverture, cette photo de Dorothy Lange, de cette main qui masque le visage du fermier, et de l'avoir pris et lu, et d'avoir ressenti quelque chose d'un choc, sidéral, différent, que j'ai pas retrouvé plus tard dans d'autres livres.
Vous ne connaissiez pas non plus d'avant ?
Non, et quand que j'ai retrouvé, quand j'ai retrouvé, en fait, pour l'humour et pour la violence et pour la... Et pour l'espèce de monde qui s'ouvrait, l'incroyable monde qui s'ouvrait dans le Maître et Marguerite, alors qu'il n'a rien à voir, mais pour les...
Bulgakov.
Ouais, pour les 100 premières pages du Maître et Marguerite et pour le rire noir qu'il provoque. Et j'ai trouvé ça avec Egolf à l'époque. Et comme nombre de lecteurs d'Egolf, j'ai eu ce même rapport à ce livre qui est « Je n'ai pas lu les autres ». D'Egolf. Je n'ai pas été curieux du reste de l'œuvre d'Egolf, et c'est peut-être son drame, mais c'est ce que provoque cette lecture, étrangement.
Mais comme quelque chose de définitif, un petit peu d'absolu, quoi.
Oui, comme si une œuvre... vous savez, quand on se plonge en tant que lecteur, j'ai eu cette façon, et ça montre d'autant plus le paradoxe, de me plonger de manière systématique dans une œuvre en découvrant... je me rappelle, par exemple, sur Sandrard, d'avoir découvert Sandrard, et puis de tout lire à la suite. Céline, pareil, etc. Mais de Egolf, d'être pas avoir à aucun moment la curiosité de la suite ou de la curiosité de ce qui avait été écrit autrement par cet auteur, oui, d'une sorte de complétude de ce livre, d'une forme de classique. Mais en même temps, et c'est là, ça raconte quelque chose d'un trajet indirectement de lecteur, j'y suis revenu comme Balaguer, mais bien des années après, donc on devait être en 2006 lorsque je l'ai découvert. Et presque 10 ans ou 11 ans après, je me souviens être parti en vacances et il m'arrive de prendre les livres du moment et puis de reprendre un livre de la bibliothèque ou de prendre un livre de la bibliothèque, soit un qu'on a faussement lu, qu'on a dans la bibliothèque mais qu'on n'a pas lu, soit un livre qu'on a envie de
relire.
Ouais, et j'ai vu le livre d'Egolf, La Tranche, et entre-temps, ma vie avait avancé et il se trouve que ma vie et la littérature se sont un peu mêlées, en tout cas dans mon métier, puisque je suis devenu éditeur, et entre autres beaucoup de littérature américaine. Et ma première lecture du livre d'Egolf était une lecture vierge de tout contexte littéraire, comme je vous le disais, je n'avais pas de vraie culture de la littérature américaine, et donc ce livre, je le prenais tel quel. Et en le prenant ce jour de départ... je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir si ce livre tient la route.
Si... Au-delà de mes 18 ans, de voilà, moi qui débarque à Belleville.
Il y a plein de livres comme ça qu'on a aimés à une époque.
Bien sûr.
Et je me demandais si ce livre aussi, je pourrais le... En tout cas, en le lisant, je me suis dit, tiens, il est d'autant plus intéressant. Je l'ai trouvé toujours aussi fascinant. Mais j'ai trouvé aussi fascinant parce qu'il me semblait totalement anachronique. Là, c'était fort d'un contexte d'une connaissance de la littérature américaine de cette époque, que depuis j'avais publié, de Foster Wallace, j'ai pas publié Foster Wallace, mais de Ben Marcus, d'auteurs qui sont, qu'on dirait post-modernes, dans la littérature américaine, ou de l'autre, en gros, pour les deux autoroutes de la littérature américaine qui ont dominé la fin du XXe siècle et le début du XXIe, c'est soit le postmodernisme de Pynchon et de Foster Wallace, soit ce qu'on a appelé voilà les ateliers d'écriture, le primat de l'histoire et la volonté d'englober comme ça la société sous forme de roman. Pour caricaturer Franzen.
Ok.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette deuxième lecture pour vous, Adrien Bosque ?
Eh bien, de trouver qu'il y avait donc ces deux autoroutes et que lui se trouvait, alors pas sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il se trouvait dans oui, alors si l'image que j'ai dans le livre, je dis un canal pollué, mais ça pourrait être un peu comme l'image qui me vient là, si on reste sur ces voies rapides, c'est, vous savez, ces images qu'on a de... de Los Angeles, de cet endroit où l'eau passe et où les voitures, il y a quelques scènes de films où les voitures roulent sur cette espèce de
mare, quoi, ou de rivière d'autoroute.
Non, c'est une sorte de les mots m'échappent, mais de canal asséché. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un livre d'iconoclaste, autodidacte, hors de toute école, arrivé trop tôt ou arrivé trop tard. Mais totalement solitaire.
Et est-ce que c'est cette deuxième lecture qui vous fait vous dire qu'un jour vous allez vous pencher sur la trajectoire de Tristan et Golf ?
En tout cas, elle me questionne sur. Elle me questionne profondément sur. Sur le pourquoi de cette solitude, le pourquoi de
la solitude du livre ou la solitude
du livre de d'abord. L'auteur. Pourquoi ce livre à ce moment-là ? Et je me penche sur son histoire que je ne connaissais pas. Puisque ma première lecture, et ça tient aussi à l'époque, et indirectement mon livre aussi raconte l'évolution des époques.
Bien sûr, on va
dire. Je pense qu'en 2005, je ne tapais pas sur mon téléphone le nom de l'auteur.
Qu'il est, ouais.
Et là, durant cet été-là, je pense qu'au bout de 10 pages, j'ai retapé le nom et je suis tombé sur l'histoire derrière le livre, qui est effectivement l'histoire d'une immense solitude, qui est aussi l'histoire de la difficulté à vivre, de la difficulté à créer, de ce qu'il en coûte de créer, et du prix quand on le fait vraiment.
Et quand on est tenu par ça, parce que quand je disais en introduction que vous écrivez vous-même un livre, mais on va rester sur votre question de la lecture, mais vous écrivez un livre sur ce que c'est que la pulsion d'écrire, et à quoi elle tient, et où est-ce qu'elle s'ancre, et parfois c'est un petit peu mystérieux de savoir d'ailleurs exactement où est-ce qu'elle s'ancre dans la vie de cet homme, et dans celle de votre narrateur, puisqu'il y a une sorte de miroir. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit je me sens comme un frère de lecture de Paul Balaguer, et vous avez aussi dit tous les gens qu'ont lu Egolf ou tous les gens qu'ont lu Le Seigneur des Porcheries, comme s'il y avait un peu une communauté autour de ce livre-là. Ça tient à quoi ? C'est juste, ce sont les livres un peu phares, comme ça, un peu mystérieux, qui réunissent autour d'eux. Tu l'as lu. Ah, toi, tu sais.
Oui, alors sans forcément la petite distinction que ça crée. Je pense qu'il y a réellement
un truc physique.
Oui, et des livres qu'on aime aimer pour la part de secret qu'ils recèlent et que peut-être on les a aimés, découverts et qu'une fois qu'on les a découverts, ils deviennent des livres qu'on se passe. Je dirais pas sous le manteau, mais qu'on aime à conseiller à certains, comme un café qu'on aime bien, mais qu'on n'a pas envie de voir trop plein un jour. Voilà, donc c'est un peu de la même manière.
Un chemin de montagne.
Exactement.
C'est vraiment pas très partageur, mais c'est vrai.
Non, mais c'est et puis parce qu'on aime aussi à pouvoir avoir ça en partage et que peut-être les secrets sont de belles choses et que. Et je retrouve ça avec et sans que ça soit de la prétention, oui, avec un autre livre où j'ai souvent entendu de la même manière, c'est un livre de Jean Giono qui est pas le plus connu de Jean Giono, qui est Pour saluer Melville, qui est une fausse biographie de Herman Melville que Giono écrit parce qu'à l'époque il a traduit Moby Dick. Mais bon, il l'a traduit, ils étaient trois dessus et ils ne parlaient pas anglais. Donc, c'est dire le cheminement jusqu'à la traduction. Et l'éditeur, donc Gallimard, et Gaston, à l'époque, Gallimard, lui demande d'en écrire la préface.
Et c'est ce petit texte-là qui devient voilà. Pour saluer Melville. Ouais,
c'est
ouais,
ça. Et qui est en réalité, et j'aime bien cette idée, presque un texte, parce qu'il y a des anachronismes dans l'histoire littéraire, presque un texte pré-michonien, c'est-à-dire que ça ressemble à La vie de Joseph Roulin, ou ça ressemble à Rimbaud le fils. Il met dans Melville ce qu'il a envie de lui de passer de sa vie. Et d'ailleurs, ce que fait Golf aussi, et ce que font nombre d'écrivains.
Et ce que fait Michon dans Rimbaud le fils.
Voilà.
C'est fou d'ailleurs. Vous, en trois secondes, vous faites une forme de constellation. C'est le titre de votre livre, Adrien Bosque. Mais en effet, de ces auteurs ou autrices qui, et vous citez aussi Yourcenar, qui travaillent ce matériau bizarre de la biographie littéraire en inventant autre chose, en faisant autre chose là de ce canon.
Et dans le cas de Giono, c'est très troublant, c'est-à-dire qu'il invente un amour qui déchire et qui...
Pour Melville.
Oui, et qu'il transforme. Et puis il y a des phrases folles et définitives. Je ne sais plus, il y a une phrase qui commence le livre qui est « Melville revenait d'Angleterre avec une tête embaumée dans sa main » ou quelque chose comme ça, point. Oui, mais c'était sa tête. Enfin, il y a des phrases comme ça sorties. Et ce livre, il y a toute une communauté autour de ce livre de Melville. Et pour en citer un autre qui se trouve dans mon propre, dans ce livre, L'invention de Tristan, et dont je parle à la fin, et c'est le rêve de train de Dennis Johnson, qui est beaucoup plus partagé aux États-Unis, mais qui est un livre comme ça qu'on aime à transmettre à quelqu'un qu'on estime ou on aime peut-être créer ce lien de communauté. Et le mot est bien choisi, de communauté, parce que je crois que, enfin, c'est tel que je l'ai vu, le livre de Egolf est né autour d'une communauté qui a su le préserver.
Exactement. Une des choses que vous rendez dans votre propre roman, c'est comment lui-même est une forme de d'étoile, mais autour de lui, il y a aussi plusieurs étoiles, plus ou moins sombres d'ailleurs. Et c'est la concomitance, ouais, c'est vraiment l'alignement des étoiles qui fait que ce livre vit. On va parler de votre roman Adrien Bosque, juste après cette reprise d'un tube des Pink Floyd, sorti en 1975, qui est ici signé Birds on the Wire. Et elle apparaît de manière très furtive, cette chanson, sur l'enseigne d'un bar à Lancaster aux États-Unis où Tristan Egolf, pour de vrai, je crois, fait la plonge. Véridique ?
Oui.
Véridique. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson ? Elle dit « J'aimerais que tu sois là ». Et c'est aussi une chanson de creux, une chanson d'absence. Et il me semble que votre roman, c'est aussi un roman de creux et un roman d'absence. Le groupe la compose en pensant à Syd Barrett, c'est l'un des fondateurs qui avait perdu pied quelques années plus tôt. Et il y a un des vers, voilà, je traduis vite fait, ou c'est plutôt Google qui le fait pour moi. Est-ce qu'ils ont réussi à te faire échanger tes héros contre des fantômes ?
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a coast you rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La trajectoire d'une vie cet après-midi dans le Book Club, celle de Tristan Egolf, écrivain météore, mort en 1995, à l'âge de 33 ans, que votre narrateur Adrien Bosque suit à la trace dans un roman qui prend la forme d'une enquête, mais aussi celle d'une méditation sur les fictions que sont nos vies et la tension d'invention que porte en elle toute tentative de récit du réel. Il ne faut jamais perdre de vue, écrit Marguerite Yourcenar, que vous citez en exergue, le graphique d'une vie humaine qui ne se compose pas, quoi qu'on en dise, d'une horizontale et de deux perpendiculaires, mais bien plutôt de trois lignes sinueuses étirées à l'infini, sans cesse rapprochées et divergeant sans cesse, ce qu'un homme a cru être, ce qu'il a voulu être et ce qu'il fut. Vous étirez, vous aussi, ces lignes sinueuses à l'infini dans ce texte, L'invention de Tristan, paru aux éditions Stock. On en parle avec vous dans cette deuxième partie d'émission et on commence avec un extrait.
Date, 25 août 2023, 11h15. 2. Zachary Crane à Henry Finder. Cher Henry, je m'en vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui écrit un chef-d'œuvre à 23 ans et qui se tire une balle dans la tête à 33. Entre, il y a des courses de taureaux, des combats de boxe, un groupe de punk, des Amish, un squat sordide de Philadelphie, une chambre de bonne au bas du jardin du Luxembourg, Rabelais et Brotigan, Faulkner et Modiano, Céline et Kennedy Toole, un manuscrit trimballé entre deux continents, un bloc de feuilles annoté d'une écriture minuscule, le pont des Arts, les canaux d'Amsterdam, les rues de Londres, les blocs venteux d'Alphabet City, des femmes, une jeune fille, une petite fille. C'est une histoire sur l'écriture et l'abattement, sur l'Amérique et la dépression, sur la bascule d'un monde, l'effondrement des deux tours, des pyramides humaines, des pirates et des terroristes, ici et là-bas. C'est une histoire qui commence à Lancaster, Pennsylvanie, et se termine à Lancaster, Pennsylvanie. Entre un jeune homme que le bonheur effraie et que le désespoir terrasse, et sa vie, dessinée comme une perspective dans le temps. L'arme du crime, il est possible que ce soit un livre. Zachary. Date, 25 août 2023, 15h12. 2. Henry Finder à Zachary Crane. Envoyez-moi quelques pages. Sincèrement, Henri.
C'est un des plaisirs de lecture de votre livre, Adrien Bosque, c'est l'aspect enquête de cet homme, Zachary Crane, qu'on entend ici échanger des mails avec Henry Finder, c'est un peu drôle par ailleurs les noms que vous leur donnez, et c'est aussi une des astuces de la construction narrative qui est que il est en permanence, Zachary Crane, en train de nous raconter aussi comment ça fonctionne une enquête, et qu'est-ce que ça doit être un journaliste littéraire, et comment est-ce qu'on compose un article, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette veine de votre roman qui n'est pas la seule?
Alors peut-être vous parler de Zachary Crane, alors qui est pas proprement parlé journaliste, qui est un jeune homme américain qui se trouve être à Paris, on pourrait dire dans les limbes, en transit entre deux histoires.
En peine de cœur,
mais qui
en galère même.
En galère.
Il dit qu'il va écrire pour attendre moins douloureusement.
Oui, et aussi pour attendre dans la perspective où peut-être dans cette peine. Celle qu'il regrette, le regrette. Donc, cette espèce de moment de latence où une histoire n'est pas tout à fait terminée, en tirer la conclusion à la place de l'autre et le risque le plus définitif que ça s'arrête. Donc, il est dans ce moment qu'il s'offre de parenthèse et ce jeune homme n'est pas proprement parlé journaliste, il est fact-checker, qui est un métier bizarre que que les journalistes du New Yorker et que le New Yorker a institué comme un temple en soi. À savoir des gens qui ont comme travail de vérifier les informations des autres et de les vérifier scrupuleusement dans ce qu'on appelle le grand reportage littéraire. Ça tient presque à de la névrose aux États-Unis, puisque tout est vérifié, n'importe quel verbatim, et pour nous qui sommes assez légers dans notre façon de faire parfois du journalisme, ça paraît comme...
Même s'il y a des cellules de fact-checking qui sont arrivées dans les grands journaux français.
Oui, mais je pense qu'il y a eu aussi une grande tradition du...
De l'à-peu-près, vous voulez dire?
De l'à-peu-près, voire du mensonge, voire du... Et je le dis sans... C'est une réalité... Je pense qu'il y a même eu un plaisir d'introduire de la fiction dans du reportage. C'est d'ailleurs la fameuse phrase de Kessel à Sandra en lui disant, mais bon, même si ça s'adressait à un poème, il lui disait qu'importe si t'as pris le Transsibérien, si tu nous l'as fait prendre à tous. Et c'est un
en
peu
en parlant de Bourlinguer, non, c'est ça?
En parlant de la prose du Transsibérien la réalité de la vie de Sandra en Russie, mais. C'est une façon de dire, on a toujours été pris dans ce désir de la fiction au cœur du journalisme, ce qui est aussi le cas de l'Amérique, mais ils ont cette cellule. Et Zachary Crane a été engagé par Henry Finder, dont le nom est vrai, et c'est effectivement l'éditeur en chef du New Yorker, et qui a un nom tout prédestiné, puisque Finder, si on le traduit vraiment littéralement, c'est celui qui trouve.
Qui trouve, ouais.
Tandis que les fact-checkers sont ceux qui cherchent, ceux qui vérifient. Et donc, son métier consiste à démonter pièce à pièce un reportage pour en tester la solidité comme un crash test et pour éviter à la fois des problèmes juridiques puis des questions de véracité de l'information. Mais ce jeune homme a quitté son métier poursuivre sa compagne et donc se retrouve un peu comme ça entre deux histoires. Et souvent, ce qu'on raconte, c'est que ces journalistes ces fact-checkers du New Yorker, ces vérificateurs ont toujours le désir, la volonté, le désir caché un jour d'écrire. Il va tomber sur cette histoire et tombant sur cette histoire, il va s'offrir cette liberté peut-être parce que...
D'ailleurs, Finder lui dit ça te fera lire et ça te fera écrire. Tu auras le temps de lire et tu auras le temps d'écrire.
Il lui glisse ça et il découvre en tout cas que ce conseil a peut-être vu juste lorsqu'il découvre l'histoire de Egolf. Aussi parce que l'histoire de Egolf se passe en grande partie, en tout cas son histoire éditoriale, à Paris. Mmh. Et donc il se dit, j'ai une histoire américaine à Paris et j'ai de quoi commencer à enquêter. Et d'où ce mail qu'il envoie à Henry Finder pour lui proposer, comme le ferait un journaliste... proposer un sujet. Et pour mon livre, effectivement, on sortait de la narration, on va dire, classique ou attendue du récit d'une vie qui a quand même ses limites, pour pouvoir, comme vous le disiez, mettre en place ou remettre les échafaudages d'une enquête et les mettre à jour, puisque ce personnage avait plusieurs atouts. Celui de pouvoir effectivement mettre à nu la construction d'une enquête, la raconter, les doutes, mais aussi...
La réalité de ce que c'est que d'avoir rendez-vous avec un tel ou un tel qui doit nous raconter, le mail d'après le rendez-vous, l'interstice dans le langage de quelqu'un qui vous raconte, les personnes qui refusent de vous parler. En fait, tout apparaît et tout devient aussi roman, parce que de la même manière que votre narrateur dit, en fait, il y a des vestiges, mais les vestiges ne sont pas la vérité, eh bien, les gens qui vont parler, qui vont lui parler de Tristan Egolf, vont lui dire des choses, mais ce sera en permanence insuffisant. Et c'est aussi ça que raconte l'invention de Tristan, c'est ce qu'il reste à faire une fois qu'on a été voir tous les gens qui l'ont connu, une fois qu'on a trouvé toutes les archives qui concernent. En gros, c'est aussi se demander en permanence, c'est quoi la vie de quelqu'un, en fait, Adrien Bosque?
C'est la question au centre du livre et qui me passionne. Et je pense qu'effectivement, on ne connaît jamais les... on ne connaît jamais les choses en plein, on ne connaît jamais personne, et il n'y a pas d'exhaustivité, il n'y a pas de vérité de quelqu'un. Et par contre, il y a des visages, et on prête un masque social, on prête un visage en fonction de ceux que l'on croise, des histoires que l'on vit avec eux, et que rencontrer au fur et à mesure ceux qui ont... traverser la vie d'un homme ou d'une femme, c'est découvrir différents visages qui se complètent ou pas, qui font un puzzle ou pas égal. Mais c'est ça qui me paraît le plus juste pour traduire une vie. Et c'est ce qu'on retrouve, alors sans que ça soit du tout un mime, dans le film Citizen Kane, c'est-à-dire ceux que le journaliste va croiser au fur et à mesure pour raconter la vie de Kane, sont des gens qui n'ont pas du tout la même histoire à raconter. Et qui ne raconte pas du tout le même Foster Kane. Et c'est ce que je souhaitais pour Egolf, que on raconte davantage la déflagration dans le cœur des vivants que de tenter une sorte de biographie totale d'un auteur aimé.
Oui, d'ailleurs, vous finissez par beaucoup raconter la vie de ceux qui vous parlent de Tristan Egolf, ou le moment où il raconte à votre narrateur Zachary Crane. Il y a un moment donné où il dit, Zachary, ces gens qui viennent me parler de Tristan Egolf, ou que je vais solliciter pour me parler de Tristan Egolf, ils avancent vers moi comme des personnages. Et c'est aussi à ce titre-là qu'ils vont pouvoir rentrer dans mon texte, parce que se pose aussi beaucoup la légitimité de pas faire les poubelles d'un mort, de pas aller comme ça remuer la terre de quelqu'un qui s'est tué en plus et qui porte en lui énormément de noirceur, ce que fait le texte, mais il y a vraiment l'idée que les gens consentent à la fiction, les gens consentent au récit, et en même temps qu'ils racontent l'épopée de cet homme, ils se racontent eux-mêmes à un certain moment de leur vie, et donc vous racontez le milieu éditorial parisien dans les années 90, vous racontez la fille de Patrick Modiano qui rencontre Tristan Egolf sur le Pont des Arts, c'est romanesque à souhait, il est en train de jouer de la musique, ils ont une sorte de coup de foudre, on peut dire ça comme ça, et il est en train d'écrire, et c'est Modiano qui... découvrira sur le bureau dans la chambre de sa fille
le manuscrit du Seigneur des Porcheries. Vous avez dit, Adrien Bosque, on ne connaît rien en plein, on ne connaît personne dans la totalité. Peut-être c'est encore plus vrai pour les personnages de romanciers, romancières. On écoute Patrick Modiano dans son discours de réception du prix Nobel.
J'ai toujours hésité avant de lire la biographie de tel ou tel écrivain que j'admirais. Les biographes s'attachent parfois à de petits détails, à des témoignages pas toujours exacts, à des traits de caractère qui paraissent déconcertants ou décevants. Et tout cela m'évoque ces grésillements qui brouillent certaines émissions de radio et rendent inaudibles les musiques ou les voix. Seule la lecture de ces livres nous fait entrer dans l'intimité d'un écrivain, et c'est là qu'il est au meilleur de lui-même et qu'il nous parle à voix basse, sans que sa voix soit brouillée par le moindre parasite. Mais en lisant la biographie d'un écrivain, on découvre parfois un événement marquant de son enfance, qui a été comme une matrice de son œuvre future, et sans qu'il en ait eu toujours une claire conscience. Cet événement marquant est revenu sous diverses formes hanter ses livres.
C'est la voix de Patrick Modiano lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 2014. Adrien Bosque, c'est un discours, un bout de discours que vous citez à la fin de votre roman L'invention de Tristan. L'idée que on puisse chercher la vérité des auteurs ou des autrices dans les livres ou dans leur vie est aussi une des grandes questions que pose votre roman. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Oui, c'est une grande question, et puis c'est la question sans tomber dans la pédanterie, mais qui est la question de contre Sainte-Beuve de l'unicité d'une œuvre, de la direction que donne un écrivain et de ce grésillement dont parle Patrick Modiano. Et c'est assez amusant que vous passiez cet extrait, que vous le passiez plus loin que je ne le fais, c'est-à-dire que je ne le retranscris. Moi, je suis assez sévère avec moi-même, ou je suis assez sévère avec mon narrateur, et je considérais que il pouvait avoir le dernier mot, Patrick Modiano, à travers cette liquidation de la biographie.
Alors que Modiano
parle d'une
blessure qui vient hanter tous les livres.
C'est ça, et ouais. Qui est au cœur même de...
Déjà de son œuvre à lui.
De son œuvre à lui, d'un pédigré, mais de l'œuvre de Egolf, dont on découvre au fur et à mesure de la recherche qui est celle de Zachary Crane, de son chemin dans le Midwest, de son chemin en Pennsylvanie, que oui, au cœur de son œuvre se rejoue quelque chose du père, quelque chose du grand-père, quelque chose d'une blessure à jamais ouverte.
On va y venir à cette manière dont votre roman ne s'arrête pas du tout, presque ne peut pas s'arrêter à la figure de Tristan Egolf et remonte un peu plus loin, que ce soit dans les générations et dans la géographie, Adrien Bosque. Mais quand même, poursuivons avec Patrick Modiano la légende de la découverte de ce manuscrit et comment est-ce qu'une communauté des constellations comme ça d'étoiles se fabrique à la fois autour de Egolf, parce que ça a vraiment cette gueule-là à Paris, enfin on a presque envie d'y être, de traîner avec eux, ou pas, je sais pas, et autour du manuscrit.
Vous avez dit une chose très très juste tout à l'heure en parlant de ces personnages qui s'avancent et du fait qu'ils racontent leur histoire et qu'ils l'avancent comme s'ils en tout cas ils avaient prévu de l'agencer de telle manière, de la raconter de telle manière. Et c'est précisément ce qui se passe pour, y compris ceux qui se taisent, ceux qui sont dans non pas une communauté du Seigneur mais une conjuration du silence.
Donc Marie Modiano par exemple?
Oui, ou Patrick Modiano, mais à qui on peut accorder le droit et même les comprendre ou combien de préserver leur histoire et puis de l'écrire à leur manière. Puisque de fait, ils l'ont écrit.
Marie Modiano dans un livre.
Voilà, et Patrick Modiano y a répondu ou a écrit sur Egolf quelques lignes, et donc considère que peut-être le reste sera superflu, non maîtrisé. Et ce qu'on pourrait appeler une légende cadenassée de l'autre, une autre histoire qui est celle des personnages qui n'ont pas cette possibilité, qui considèrent que l'histoire ne s'est pas racontée exactement telle qu'ils l'envisageaient, que le personnage qu'ils ont aimé n'a pas été saisi dans son entièreté, qu'il manque des aspérités, et eux s'avancent avec leur histoire. Et donc, oui, pour répondre pardon à votre...
Et eux, c'est qui ? Ça va être le milieu éditorial, Christine Jordis, par exemple.
Oui, ça va être, ça va être son éditrice, Christine Jordis, puisque la particularité, donc pour répondre et pour raconter l'histoire sans qu'elle soit entendue, c'est donc l'histoire quand même d'un manuscrit d'un écrivain américain refusé par tous les éditeurs.
50 ou 70, on lit les deux chiffres.
Ça varie selon les témoins.
Et selon leur aspect marseillais.
Voilà. Et refusé par tous, qui va débarquer dans une sorte de bohème répétée à Paris. D'abord à Paris, Amsterdam, revenir à Paris.
Début des années 90.
Début des années 90, rejouer ce que d'autres ont joué de la génération perdue. Tomber, comme vous l'avez raconté, qui est l'histoire telle qu'est arrivée un dimanche d'octobre sur le Pont des Arts, tandis qu'il joue de la guitare et qu'il joue Dylan d'ailleurs, et qu'il rencontre Marie Modiano, qui est avec une amie, et va naître une idylle entre les deux. Et ce jeune homme ne sait pas qu'il rencontre la fille d'un écrivain, et elle ne sait pas qu'il écrit un livre. Mmh. Ce livre, il le trimballe, c'est celui dont j'ai parlé, qui est réécrit et réécrit sans cesse, d'une écriture miniature qui ressemble à celle, en tout cas telle qu'elle est décrite, de Walser. Et Modiano va tomber sur ce texte, parlera d'une manière un peu étrange et qu'on peut comprendre d'une intuition de chef-d'œuvre, d'une intuition
mais
de grand livre.
J'adore ce passage, parce que ça participe aussi, en lisant votre roman, je pense à un autre roman que j'aime beaucoup, et il était à cette table ici, Mohamed Bougarsar, la plus secrète mémoire des hommes, où il y a aussi un livre secret, il y a un livre magique, et je trouve que cette scène que raconte votre narrateur Adrien Bosque, où c'est Modiano qui rentre plus ou moins dans la chambre de sa fille en leur absence, qui voit le tas de feuillets avec les pattes de mouche, qui comprend pas l'anglais, qui peut pas déchiffrer l'anglais, mais qui, à quoi la vibration des feuilles sur le bureau se dit « Ok, c'est un chef-d'œuvre ». En tout cas, ça vaut vraiment la peine de faire un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire l'amener aux éditions Gallimard.
Oui, alors entre-temps, il le fait lire à
sa femme.
À sa femme, qui, elle, lit l'anglais et qui, elle, confirme que c'est un grand livre, et donc le transmet aux éditions de Gallimard, mais... Oui, comme dans le livre de Mungarsa, je pense qu'il y a une vibration.
Mais ça, c'est quand même fou, non ? Je sais pas, je voulais justement vous demander...
Moi, je pense qu'il y a une matérialité des textes. C'est ce que j'ai voulu mettre aussi lorsque le manuscrit revient à un moment du livre. Je pense qu'il y a une... Et c'est la question que pose... l'indice que laisse Crane à son rédacteur en chef en disant « Il est possible que l'arme du crime soit un livre. » Et je pense que ça a beaucoup à voir avec ce poids, avec cette vibration... avec ce manuscrit en sonorité, cette espèce d'image de Shining, de la répétition des mêmes mots sur ce bloc de feuilles, et de l'homme face à son immense solitude, de l'écrivain confronté à son échec, ou de l'écrivain confronté à la construction et à l'immensité, la nécessité de tenir tout d'un bloc. Et donc oui, il va le transmettre à son éditeur, qui est Antoine Gallimard, qui lui va le... C'est là où on a vraiment une chaîne du livre, une communauté de main en main, va le transmettre à Christine Jordis, qui s'occupait de cette collection du monde entier, du domaine anglo-saxon. Et elle va le lire. En parallèle, Serge Chauvin, qui est son lecteur à l'époque, qui depuis est le traducteur de Richard Powers ou de Cormac McCarthy, va le lire aussi en parallèle. Et les deux sont frappés devant l'évidence de ce qu'ils considèrent être comme un très très grand livre.
Et c'est parti, la machine se met en route.
Oui, et d'une manière, alors là, vraiment, singulière, puisque il est extrêmement rare qu'un texte étranger, sans agent, sans éditeur, paraisse d'abord dans une autre langue.
Ils prennent les droits du monde entier.
Voilà, et là, c'est une autre d'autres personnages de la communauté qui prennent en main le livre, dont une dame formidable qui est Anne Solange Noble et qui s'occupait des droits étrangers à l'époque et qui elle aussi est conquise par ce livre et va se donner pour mission de le faire lire dans le monde entier, ce qu'elle fera et le ramènera dans son pays d'origine. aux États-Unis avec l'ironie de le voir publié après avoir été refusé.
Et adoubé après avoir été tant refusé. Je voudrais absolument pas faire de votre livre un commentaire en creux, puisqu'on parlait d'un livre en creux, mais je pense qu'il est en creux de bien d'autres choses, Adrien Bosque, mais de la situation éditoriale et du rapport au livre qu'il peut y avoir aujourd'hui, très marchand aussi, très, très en rapport avec l'argent, mais vous décrivez un tel désir, vous décrivez des hommes et des femmes tellement animés, mais profondément animés par la littérature, qui sont prêts à déplacer des montagnes parce qu'ils croient dans un livre. On a l'impression aussi qu'en plus de vous demander comment est-ce qu'on peut écrire la trajectoire d'un homme ou d'une femme, d'une vie en gros, quoi, que vous faites aussi vibrer cette corde-là de c'est quoi écrire des livres, pourquoi c'est si important, pourquoi on le fait depuis si longtemps, et c'est quoi publier des livres. L'essence de ce que c'est, de ce geste-là, quoi, c'est comme si vous le décortiquiez, c'était il y a 30 ans.
Mais parce que pour eux, c'est très présent et que c'est ce qui était très beau dans la manière et très gratifiant pour moi dans la façon d'enquêter. C'est lorsque je croisais tous ces visages et qu'on se mettait à parler, j'avais l'impression qu'ils remettaient là des habits de jeunesse et que d'un coup, ils s'éveillaient, ils s'éveillaient sur ce sujet-là et qu'ils retrouvaient un visage, un regard qui n'était pas le même que cinq minutes avant. Et c'était très beau à voir et c'était de façon répétée. Et là où c'était absolument nécessaire pour recréer ce que vous décrivez, cette espèce de joie, de devoir, lorsque le livre est grand, qui incombe à ceux qui s'en occupent, j'avais besoin de créer ce narrateur qui ne soit pas aussi lié à ce milieu que je ne le suis, parce que je suis éditeur et que je voulais qu'il y ait ce personnage américain qui découvre ce monde-là avec une forme de naïveté, les laisse déjà raconte aux lecteurs qui ils sont et puis les laisse raconter pleinement, leur désir. Mais je crois que c'est encore vrai que, marchand ou pas, lorsqu'un texte renverse une maison, il renverse toute une communauté qui est prête
à le porter. C'est
à
beau.
Le porter. Ben, je suis pas là pour forcément parler de ma boutique, mais je vois que, et on peut parler d'un texte sans doute qui a été aimé dans cette émission, mais que lorsqu'on a découvert le manuscrit d'Adèle Lyon en juin dernier,
tu as fait l'émission avec Mathilde Wagman,
ce que j'ai aimé et encore plus en tant qu'éditeur, c'est qu'une fois que avec Adèle les choses se sont mises en place pour l'édition de son texte, c'est la façon dont il s'est complètement autonomisé à l'intérieur de la maison et de façon complètement disjointe de mon propre désir de le voir lu.
Et
c'est les autres dans la maison qui voulaient le porter.
Et il a rencontré un succès incroyable, au-delà même d'un cercle qui serait très littéraire, je le voyais.
Et ça, on le voit sur quelques livres.
On écoute un nouvel extrait de votre livre, Adrien Bosque.
Autant le roman chevaleresque du grand-père est linéaire, la chronique édifiante et héroïque d'une époque, autant le livre du père se lit comme un reportage gonzo incomplet et foutraque, à la morale douteuse. De ce que je savais, ou comprenais, Tristan n'avait eu de cesse de se mesurer à l'ombre écrasante de ce père disparu, toujours ainsi pris en étau entre le désir de le dépasser et la crainte de l'imiter, de l'admirer autant que de le haïr. Qu'il lui eût fallu rompre la malédiction pour vivre, et pour ceux qui l'avaient connu, sa fin tragique était bien la preuve qu'il n'y était pas parvenu. En somme, c'était une histoire de mauvais génie, de lutte entre le choix de la raison et de la bonté, et de la folie et du mal. Le fantôme du père, pareil à un diable de cartoon, juché sur l'épaule du héros. Warren en convenait. Tristan se souvenait très bien de son père et l'idolâtrait. C'était une histoire fascinante et pour un grand-père parfois déchirante. N'est-ce pas toujours la même histoire ? Un truc presque aussi vieux que le monde, dont personne ne peut jamais vraiment guérir. Les parents sont des fantômes pour leurs enfants. James se souvenait qu'à l'époque de Philadelphie, l'année de leur rencontre, Tristan, comme pour conjurer le sort, retapait à la machine à écrire consciencieusement et furieusement les textes de son père. Il avait reçu un ensemble de lettres, nouvelles, tentatives de romans, tout un paquet aussi encombrant que pesant. Un fardeau maudit, que la dernière femme de Brad Evans lui avait transmis en unique héritage. Avant le manuscrit du Seigneur, c'était ce tas de feuilles mortes-là qu'il lui fallait trimballer d'une piole à l'autre. Une façon d'incorporer son style, de le faire sien. Pourquoi faire ? Le prolonger, le détruire, l'amalgamer pour l'oublier, à la façon d'un pastiche de travail. On parlait d'une nouvelle écrite par le père, l'histoire d'une révolte des boueurs, les prémices d'un roman.
Un extrait de votre livre, Adrien Bosque, L'invention de Tristan. On parlait d'un roman du creux, de l'absence, la manière dont votre narrateur vient remonter la généalogie de Tristan et Egolf et faire apparaître d'autres romans, le roman du grand-père, on l'a entendu, Linéaire, la guerre, comme ça, et le roman du père. Et là, c'est très beau parce qu'on voit à quel point Egolf doit poursuivre ou rompre avec l'histoire de ces deux figures comme ça paternelles. Mais en plus de ça, il a aussi un fardeau littéraire à poursuivre ou à rompre avec, et c'est comme une sorte de, oui, de clé de votre propre roman, on a l'impression.
Oui, même si on n'a jamais la vérité d'une histoire, et je pense que c'est un livre que j'ai écrit, tout à l'heure je parlais de Citizen Kane, mais avec l'obsession de ne pas chercher ou de trouver absolument un Rosebud dans le livre. Il n'y a pas de luge qui part au feu, mais il y a cette mallette avec des dessins d'enfants, à un moment, que le père trimballe, avec la vie dissolue... une sorte de père terrible à l'extrême droite qui a une obsession littéraire, une obsession de se trouver du côté d'Hemingway, qui espère être ce type d'homme, qui se croit une proximité avec Norman Mailer et qui donc a beaucoup fait peser dans sa mémoire et par sa disparition et sa disparition tragique, puisque le père meurt d'une overdose et laisse Tristan Egolf sans père à 15 ans.
Le livre qui serait l'arme du crime du suicide de Egolf, ça pourrait être entre autres choses, parce qu'on a entendu qu'il fallait rien dire de définitif, mais le livre du père.
D'autant plus que le père a mis les germes du livre, puisque cette histoire de nouvelles autour d'une grève des boueurs, c'est
le pitch du Seigneur, quoi.
C'est presque, oui, c'est la révolte qui met à feu et à sang la ville dans le Seigneur des Porcheries, est une grève des boueurs. Ce qui, je trouve, résonne politiquement maintenant très fortement, que si vous voulez vraiment transformer en tout cas une ville et bouger les lignes, c'est pas avec une grève de traders, mais c'est avec une grève de gens nécessaires, dont des éboueurs. Et c'est ce qu'Hegel va s'acharner à vouloir raconter d'une façon plus grandiose, moins puérile que le père, plus sérieusement travaillée. Et c'est ce grand livre qu'il va accomplir. Mais c'est aussi l'arme du crime, puisque ce que je voulais raconter au travers de cette histoire, c'est une maladie très américaine qu'on ne connaît pas en littérature, qui est cette névrose du grand roman américain, ce qu'ils appellent The Great American Novel, qui les obsède. Nous, on a un peu une vision, disons, qu'un écrivain s'accomplit pleinement par l'accumulation de ses livres et qu'il constitue œuvre. Chez eux, il y a cette idée qu'on ne devient grand écrivain.
Quand on l'a fait,
Voilà, et ils sont très peu. Ils sont vraiment très très peu. Et ceux qui l'ont accompli, on pourrait dire qu'ils se sont tous tués après.
Est-ce que ça veut dire aussi que c'est l'arme du crime, c'est son livre réussi ?
Oui.
C'est-à-dire d'avoir peur.
Et d'avoir réussi trop tôt.
De son propre bonheur, de son propre accomplissement.
Non, je pense que c'est d'avoir gravi cette montagne et d'être absolument certain qu'on ne reverra jamais la même perspective. C'est arrivé trop tôt et que tous ceux, comme je le disais, qui ont accompli ce grand roman américain, il se trouve que de fait, Egolf a écrit un grand roman américain que les Américains ne connaissent pas, mais que Fitzgerald en est mort, que Truman Capote en est mort, que Foster Wallace en est mort et que Egolf en est mort.
C'est triste. On va écouter Karine, auditrice du Book Club. Elle vous pose une question, Adrien Bosque.
Bonjour le Book Club, bonjour Adrien Bosque. Votre livre, Adrien, je l'ai lu dès sa parution, je l'attendais et je ne l'ai pas lâché. Je me suis sentie happée, fascinée par ce roman en quête, scrupuleux, sensible, où tout est vrai et roman à la fois. Et si Tristan est un mystère, votre tentative d'élucidation, au-delà de ce qu'elle nous apprend, m'a captée car elle rend certaine, palpable la présence tragique de cet écrivain insaisissable, foudroyant, foudroyé. Alors une question, Adrien. Conseillez-vous de lire Le Seigneur des Porcheries après ou avant l'invention de Tristan? Merci pour votre réponse.
Merci Karine pour cette double lecture. Adrien Bosque, quel conseil?
Je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi pour lire dans un... Je pense que... Je crois que le livre s'est complètement séparé de l'histoire du roman et qu'il peut se lire ainsi et que ce que
votre livre à vous s'est séparé du Seigneur des Porcheries.
Et j'espère que des lecteurs découvriront à la suite Le Seigneur des Porcheries parce que c'est un immense livre qui peut dépasser ce cadre de cette communauté dont on parlait tout à l'heure de lecteurs. Voilà,
qui veulent garder les bons secrets.
C'est ça, là on peut en faire un spot instagrammable.
En tout cas, nous, on a été l'emprunter à la bibliothèque de Radio France, hein Louis. Le Book Club continue.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Et chaque semaine, on vous retrouve, Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Pour votre chronique sur l'économie du livre, aujourd'hui c'est un déclin, encore un, inexorable, des dictionnaires en papier.
S'il est un secteur de l'édition qui a pris de plein fouet l'avènement d'Internet, c'est bien celui des dictionnaires et des encyclopédies. Ces dernières ont été quasi définitivement supplantées par Wikipédia et presque tout le monde aujourd'hui cherche l'orthographe ou la définition d'un mot sur le moteur de recherche de son ordinateur ou de son téléphone portable, à l'exception, j'en conviens aisément, des amateurs un peu âgés de Scrabble ou encore des correcteurs et correctrices de journaux qui se délectent avec jubilation de l'arrivée de chaque nouvelle édition annuelle ou bisannuelle, toujours mimé, donc dans quelques jours, du Robert, du Larousse ou d'Hachette. Ce marché des dictionnaires et des encyclopédies, ils sont comptabilisés ensemble, baisse inexorablement depuis des années. Il représentait encore plus de 230 millions d'euros en 2002 selon les statistiques que j'ai retrouvées dans les archives du Syndicat National de l'Édition et il a fondu comme neige au soleil. Son chiffre d'affaires s'est étiolé et n'arrivait même plus à atteindre la barre des 20 millions d'euros en 2024. Un dévissage spectaculaire comme on en voit peu dans l'édition, même si ce chiffre n'intègre pas les ventes en ligne que tous les éditeurs de dictionnaires ont engagés depuis des années. Les dictionnaires de langue française sous forme de papier existent encore selon ce syndicat uniquement parce qu'ils sont prescrits chaque année dans un cadre scolaire.
Mais ça évoque parfois des vieux souvenirs. Non, moi quand même j'ai des bons souvenirs. Quand il y avait un mot qu'on ne comprenait pas à table, on nous disait d'aller ouvrir le dictionnaire.
Bien sûr Marie, quitte à tomber dans une nostalgie un peu datée, je me suis même demandé si le dictionnaire Gaffio latin, publié par Hachette dès 1934, se vendait encore. Vous vous souvenez ?
Ça non, par contre.
C'est un fameux outil indispensable pour les versions latines, très lourd. Il pesait, j'ai vérifié, 2,445 kg, celui-là même qui permettait de découvrir que l'armée d'Hannibal avait traversé les Alpes à dos d'éléphant. Dont je me souviens, Georges Perec l'évoque dans le 45e des 480 souvenirs et écrit « Je me souviens du contentement que j'éprouvais quand, ayant à faire une version latine, je rencontrais dans le Gaffio une phrase toute traduite ». Depuis que cet ouvrage est tombé dans le domaine public, une version numérique du Gaffio, qui date de 2016, a été créée et a, selon les latinistes, sérieusement amélioré la version initiale. Indépendant d'Hachette, ce dictionnaire est désormais sous la direction de Gérard Gréco, qui en détient les droits et a autorisé son utilisation gratuite en ligne dans un cadre non marchand.
Et chaque année, les dictionnaires se mettent à la page. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un rendez-vous que certains attendent. Comment est-ce qu'ils arbitrent ces choix ?
Pour que la langue soit résolument vivante, toute la question consiste à la renouveler et l'enrichir à bon escient pour nommer les réalités d'un monde en perpétuelle évolution, explique Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des éditions Le Robert. D'où l'arrivée prévue cette année de mots ayant trait à l'environnement ou au climat, comme climaticide, de vocabulaire ici des nouvelles technologies comme le mot prompt ou issu du sport après les JO, comme sessifoot, mais aussi tout droit venu de la gastronomie avec kimchi par exemple, ou encore en hommage à la Suisse et à la Belgique, chiclette. J'avoue que là, j'ai dû vérifier dans le dictionnaire pour apprendre que ça désignait tout simplement un chewing-gum.
Ah ouais.
Chaque dictionnaire a ses chouchous. Le Larousse a intégré boboisé, instagrammable et malaisant. Et le petit Larousse a fait une petite place à des anglicismes comme flex office ou greenwashing.
Il existe une maison du dictionnaire à Paris. Est-ce que c'est la seule en France ?
Oui, Marie, c'est même la seule au monde, m'a précisé sa directrice gérante, Marie Onessi. Située boulevard du Montparnasse à Paris, elle continue de proposer plus de 4000 références. Elle précise que les dictionnaires spécialisés, dans le juridique, le médical, mais aussi l'automobile, le marketing, le pétrole, le bois et j'en passe, sont effectivement en forte baisse, car on trouve beaucoup de choses en ligne. Mais Marie Onessi assure que le dictionnaire général continue de bien se vendre, pas seulement pour les élèves. D'ailleurs, précise-t-elle, le Robert et le Larousse déclinent à leurs intentions des dictionnaires en multiples formats, un peu comme les frères Dalton chez Lucky Luke, de 8200 mots pour les 6-8 ans à 32500 mots pour les 7-11 ans chez le Robert, par exemple. Mais elle a aussi toute une clientèle d'écrivains, de traducteurs, de correcteurs, de journalistes qui veulent enrichir leurs textes et achètent des dictionnaires de synonymes, d'homonymes, des dictionnaires d'étymologie ou d'analogie. Sans compter tous les dictionnaires bilingues, des dizaines de langues différentes comme le maltais, l'hébreu, le chinois, le persan, le roumain, mais aussi des dialectes comme le français du Québec ou de Guadeloupe. La clientèle internationale de la librairie achète aussi beaucoup en ligne. Jusqu'en juillet, la maison du dictionnaire pourra profiter des tarifs postaux très bas, réservés aux envois des livres à l'étranger, mais la Poste veut les supprimer, ce qui risque de ne pas améliorer le sort des bons vieux dictionnaires en papier.
Merci beaucoup Nicole Vulser. Économie du livre, c'est à réécouter sur franceculture.fr et on doit faire une petite dédicace à Louise Hoth qui a préparé cette émission et qui glisse toujours dans ses fiches des très beaux mots qu'on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire, mais ça nous fait apprendre des mots. À la fin du book club, on joue toujours à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et qui consiste à chercher des évocations musicales dans les livres que nous lisons. On peut jouer aussi avec nos auditeurs et auditrices, Adrien Bosque. Mais là, on a joué tout seul avec votre livre L'invention de Tristan. On était gâtés. Il y a plein de musique. Peut-être parce que Egolf arrive à Paris en jouant de la guitare, mais aussi pour rendre quelque chose des différents espaces et époques que vous traversez. On se quitte donc avec un extrait de votre livre. L'argent vient à manquer et Tristan Egolf joue dans les bars, au chapeau. Parfois en journée, il se poste sur une place ou un pont. Il reprend des standards à la guitare, comme ce morceau de Bob Dylan qu'il aime tant, « He was a friend of mine », et qu'il chante d'une voix moins éraillée que l'original, mais dont les gravures endurcissent la plainte. Un dimanche, après s'être écharpé avec le manuscrit une partie de la matinée, il file vers la Seine, qu'il longe jusqu'au pont des Arts. Il pose les tuyaux ouverts, s'installe sur les planches et gratte sa guitare pour les touristes.
He was a friend of mine. He was a friend of mine. Every time I think about him now, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine.
Merci beaucoup Adrien Bosque d'avoir été avec nous pour évoquer votre roman L'invention de Tristan, paru aux éditions Stock. Et puis on le signalait en début d'émission, on peut voir une réinterprétation mise en scène du Seigneur des Porcheries dès le 8 mai après-demain à la MC 93 de Bobigny. C'est une mise en scène signée Paul Balaguer et la compagnie des Eaux Troubles. Il y a une librairie à la MC 93, donc on pourra probablement trouver Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egolf et peut-être même L'invention de Tristan. Un grand merci à Ludovic Auger au son, à la réalisation Vivien Demeyer, à toutes les équipe du Book Club, spéciale dédicace Louise Hoth.